Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Micro Rebelle, la radio des alternatives et des luttes sociales sur le bassin minier et au-delà. Je vous rappelle que Micro Rebelle est une web radio qui diffuse ses émissions sur internet depuis l'adresse micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel, et également sur Radio PFM que nous remercions de leur accueil. Samedi dernier, le 2 juillet, Micro Rebelle a ouvert ses portes à ses amis à l'occasion d'un barbecue convivial. Nous avons eu l'occasion de présenter notre équipe, nos locaux et d'échanger sur nos projets pour la rentrée de septembre. Ce barbecue convivial marque donc la fin de notre série d'émissions pour la saison 2015-2016. Ce sera aujourd'hui notre dernière diffusion Micro Rebelle Hebdo pour cette année scolaire. Nous nous retrouvons bien évidemment à la rentrée pour de nouveaux programmes, toujours ancrés sur la vie et les luttes des habitantes et des habitants. En attendant, nous vous souhaitons un bel été. Aujourd'hui, pendant une heure, nous vous proposons trois reportages. Le premier est consacré au lancement de la souscription pour un mémorial à toutes les victimes du capitalisme. Le second reportage aborde un thème dont on entend de plus en plus souvent parler aujourd'hui, et ce, quelles que soient les options politiques mises en avant, il s'agit du revenu de base. Et nous terminerons par un dernier reportage que nous avons intitulé « Les TIC, un projet en TOC, tout un programme ». Sans plus attendre, je vous laisse avec Jonathan à propos du comité de promotion du mémorial pour toutes les victimes du capitalisme.
Eh bien bonjour tout le monde, ici Jonathan et je ne vais pas vous présenter une actualité mais un reportage où deux personnes du nom de Jacques interviennent. En mémoire pour les victimes du capitalisme, Raoul Simadia, artiste de la région qui est spécialisé dans les sculptures sur métal, décide d'édifier une sculpture à la mémoire des 42 mineurs morts en 1974 et aussi pour toutes les victimes du capitalisme comme les accidents du travail, la santé du travail, le burn-out ou bien le suicide comme à France Télécom il y a 2 ans. Un lancement d'une souscription financière qui a débuté le jeudi 30 juin au matin pour pouvoir payer le mémorial. Vous pouvez faire un petit geste en envoyant un chèque au LAG le 23 avenue Jean Jaurès à Liévin à l'ordre de Le LAG, tiré du 6 mémorial. Je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse avec cette prise de son.
Sur le site de la catastrophe de la fosse 3, enfin à l'entrée de l'ancienne fosse 3, là où avait déjà été implanté le monument et la plaque en hommage aux 42 mineurs envoyés à la mort. Donc c'est cet endroit qui nous tient à cœur parce qu'il a un sens. On se situe dans la continuité d'un combat mené dans les années 70. On veut aller plus loin, on veut élargir la problématique et on veut aller au-delà de la dénonciation des conditions de travail dans les mines, mais aller à la condamnation des conditions de travail dans le cadre du système capitaliste. Voilà. Et ce mémorial, la deuxième chose qui me semble important, comité de parrainage, il y avait c'était élargi à l'ensemble du pays. Ce mémorial a une vocation nationale. Je vais peut-être laisser à Jacques la parole sur le fait à quoi il servirait. J'avais l'idée de recueillement ou de rassemblement à chaque grande catastrophe ou crime.
On a eu un exemple récemment, quoi. Quand il y a un accident de travail, ça paraît au fait divers, quoi, dans les journaux, quoi. Et encore quand c'est signalé, quoi, quand c'est pas signalé en deux lignes, en fin de page. Bon, or, un mort au travail, un blessé au travail, c'est une catastrophe pour une famille, quoi. C'est une famille qui est dans la difficulté, qui même peut être dans la misère, enfin, c'est catastrophique. Et un des buts de ce monument, c'est de montrer. D'aider à ce que le regard sur l'accident de travail change et que on considère pour ce qu'il est, quoi. Et donc sa vocation serait de permettre des rassemblements chaque fois qu'il y a un accident de travail ou que ce soit, de permettre des manifestations. Par exemple, il y a des syndicalistes Il y a des syndicalistes à la Française de mécanique, mais également à l'usine Sting de Lannoy, à côté de Lille, qui se battent depuis des décennies maintenant, des décennies, sur le problème des pathologies liées à l'amiante. Et ça sera un excellent moyen d'aider à faire connaître ces initiatives, à leur redonner, leur permettre de mieux se faire, d'apparaître dans l'actualité, etc. quoi. Et un autre volet, c'est que c'est un artiste local que vous devez connaître, qui s'appelle Raoul Sismadia, qui nous a déjà fait un projet et qui serait qui est d'accord pour le mettre en le fabriquer quoi, le mettre en place, enfin être à l'origine de son, puisqu'il le fait fabriquer par une entreprise, être à l'origine du projet, de la conception de. Et ça serait un peu dans, je ne sais pas si vous connaissez, ça serait un peu dans ce qu'il a fait à Avion. Vous êtes allé à l'inauguration qui est à Avion pour le, je ne sais pas combien anniversaire de la catastrophe minière d'Avion, il a été fait un monument. Et c'est Raoul Sismadia qui l'a fait. Alors c'est en tôle d'alu brillante. Il en a fait ici aussi des trucs comme ça. Il le fera en brillant, voilà. Parce qu'en brillant, ça ressort vachement. Disons que ça sera une formulation qui pointe le capitalisme comme responsable des accidents du matin. Ouais. Par exemple, du genre, c'est pas la fatalité, c'est le capitalisme qui est responsable.
Donc on s'inscrit bien dans la continuité de 74-75. Et c'est bien pour ça qu'il nous paraît important d'implanter ce mémorial là à l'entrée de l'ex-fosse 3.
Merci donc Jonathan pour ce reportage qui nous rappelle les enjeux de cette souscription financière concernant le mémorial pour toutes les victimes du capitalisme. Le comité qui conduit cette lutte a un site internet memorial.bassinminier62.org. Vous y trouverez de très nombreuses informations. Pour la deuxième partie de ce micro-rebelle hebdo, nous abordons la thématique du revenu de base. Je vous laisse donc avec Sarah.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous nous apprêtions à parler du revenu de base. Alors avant tout, le revenu de base, c'est quoi ? C'est en lisant le magazine L'Inconditionnel, magazine qui parle exclusivement que de revenu de base, que j'ai découvert plein de nouvelles choses sur cette idée. Le revenu de base, c'est une proposition selon laquelle tout le monde touche une certaine somme d'argent, indépendamment du travail fourni. Cette idée est fondée sur trois critères, universel, individuel et inconditionnel. Mais il faut savoir que cette idée existe depuis des centaines d'années, et je suis sûre que certains d'entre vous connaissent son concepteur, Thomas More, oui, l'auteur du fameux bouquin « L'Utopie ». Celui-ci nous explique qu'il serait beaucoup plus intelligent d'assurer l'existence à tous les membres de la société afin que personne ne se trouve dans la nécessité de voler. D'autres personnes sont également de fervents acteurs de cette idée et ainsi se forment deux différents courants.
Donc en fait, depuis le XVIIIe siècle, il y a plusieurs courants et personnalités qui se sont emparés de l'idée du revenu de base. On remonte à peu près au XVIIIe siècle pour trouver les origines du revenu de base, mais néanmoins, il y a une différence de fond qui oppose ces différents courants. Donc on peut dire qu'il y a un courant qui s'ancre dans la tradition communiste et un autre qui s'ancre dans la tradition libérale. Alors, l'origine dans les deux cas, néanmoins, on peut considérer qu'il y a une rupture complète avec le dogme moral et économique qui dit que seul le travail peut procurer un revenu. Que ce soit la tradition du côté la tradition entre guillemets, alors je mets des guillemets à mon communiste, hein, ou la tradition libérale, et là je ne mets pas de guillemets, c'est quand même une rupture avec ce dogme-là. Donc en fait, on fait remonter l'origine de la première tradition, alors si on est plutôt sur le volet entre guillemets communiste, on remonte à Thomas Paine, qui est un philosophe américain qui est engagé dans les révolutions des deux côtés de l'Atlantique et qui a été auteur en 1797 d'un traité sur la justice agraire. Donc dans ce traité sur la justice agraire, Il plaidait pour une indemnité liée à la pauvreté. Donc à cette époque-là, il explique que la réforme agricole subie par les paysans anglais conduit à l'appauvrissement des citoyens. Et en fait, il disait « sans revenu, point de citoyen ». Ça, c'est une phrase de Thomas Paine en 1792 à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, la Révolution française venait d'éclater. D'accord ? Mais lui disait « la démocratie ne peut réellement fonctionner que si les citoyens qui la composent sont économiquement libres et disponibles pour la faire vivre ». Donc, pas de démocratie si les citoyens ne sont pas libres et disponibles pour la faire vivre. Donc, par rapport à la... Thomas Paine disait aussi que la dépossession, en fait, donc, devait être compensée par une allocation versée par l'État. Il invoquait le principe d'un patrimoine naturel commun et s'opposait à l'appropriation des terres par une minorité, expliquant qu'une inégalité devant la propriété reviendrait à nuire aux libertés individuelles. Et il a donc proposé de créer un fonds national pour payer à tous les individus qui auront atteint l'âge de 21 ans la somme de 15 livres sterling à titre d'indemnité du droit naturel dont le système des propriétés territoriales les a dépouillés.
Alors, est-ce que le revenu de base est une bonne chose ou pas ? C'est à cette problématique que se sont confrontés les décroissants du Pas-de-Calais en organisant un débat au LAG le 23 juin dernier au sujet du revenu de base. Pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas vraiment ce que c'était les différents concepts, ce qu'étaient les différentes conceptions du revenu de base, pardon. Je vous propose d'écouter cet extrait du débat pour se faire une petite idée et une idée un peu plus précise avec certains des successeurs de ces grandes figures.
On est dans les successeurs de Thomas Paine et dont ses successeurs aussi ont trop cité justement le texte que Olivier nous a fourni, Baptiste Milondo et les objecteurs de croissance tels Paul Ariès. Qui disent pour qui verser un revenu à chaque individu reviendrait à investir dans l'humain, lui permettant ainsi de rediriger sa force de travail vers une production locale ou le bénévolat plutôt que les grandes entreprises. Pardon. Donc Baptiste Milondo dit « Oser déconnecter emploi et revenus conduit à reposer la question de l'utilité sociale, de la place de l'emploi dans la société, dans nos vies ». Donc ça, c'est les théoriciens... Et donc, on a l'autre côté, en fait. Donc après, il y a un certain nombre d'autres économistes qui sont cités dans cette veine-là. Et pour arriver aux militants du mouvement français pour le revenu de base. Et donc, on a l'autre volet. Ce sont les partisans de la tradition libérale qui, eux, alors évoquent l'économiste américain Milton Friedman. Donc, Capitalisme et liberté, il a proposé pour éradiquer la pauvreté que tout individu riche ou pauvre se voit octroyer un crédit d'impôt dont le montant correspond au minimum vital. Ceux dont le revenu est élevé contribueraient par un dépôt positif à financer un versement en cash, impôt négatif, à ceux dont le revenu est inférieur à ce minimum. Et donc, d'après Milton Friedman, le crédit d'impôt permettra à chacun de participer au marché du travail. Versé à tous, il n'est pas dissuasif, contrairement à la perte des allocations lorsqu'on reprend un travail.
Se pose donc la question du financement. Parce que c'est bien beau tout ça, mais l'argent, ça tombe pas du ciel. Hein.
Chez Milondo, par exemple, lui, il explique bien clairement que ça repose aussi beaucoup sur la gratuité. C'est-à-dire que le revenu inconditionnel d'existence ou la DUA, dotation d'autonomie, elle comporte un volet monétaire, mais elle comporte aussi surtout un gros volet non monétaire qui est une redistribution gratuite de biens communs, comme l'eau, le transport, l'énergie, qui serait, dans les théories de Milondo et d'Ariès et d'autres, démonétarisé, remis en service public et donné sous forme de gratuité. Donc ça vient aussi accompagner sur la dotation financière. Il y a deux dotations financières, une sous forme monétaire qui permet d'acheter des biens et une sous forme non monétaire qui est l'accès gratuit à des biens collectifs, à des usages communs. Et ça, c'est ce qu'on ne retrouve pas chez les libéraux, du tout.
Mais est-ce que tout ça n'est pas un peu trop facile ? C'est vrai que gagner de l'argent sans travailler, ça donne envie. Mais est-ce que c'est réellement viable ? En effet, certaines personnes pensent que le besoin d'accomplissement de soi est le besoin le plus important que peut ressentir l'être humain. Ça le pousserait donc à travailler malgré l'assurance du revenu de base. Mais est-ce que cela va être le cas pour tout le monde ? La question subsiste. Et est-ce que cela va permettre à tout le monde de faire bouger les choses ? La conditionnelle nous explique que le revenu de base peut permettre d'éliminer une partie de la pauvreté en utilisant... et en partageant, pardon, les richesses dédiées à une minorité. de permettre aussi une plus grande émancipation des femmes puisque le revenu de base est individuel, ou encore d'améliorer le service de santé publique puisque plus de 50% des causes de maladie seraient économiques ou sociales. Beaucoup d'avantages donc, malgré ça, certaines personnes continuent de s'opposer au revenu de base, comme par exemple en jugeant cela trop facile et peu demandeur d'efforts de travail. Je vous propose pour finir cette émission d'écouter un extrait du livre de Baptiste Mulindeau. Je vous laisse donc avec lui et je vous dis à bientôt.
L'OASIF ira loger ailleurs, brève histoire du droit au travail. Une telle conclusion doit toutefois nous interpeller. Après tout, la défense du droit au travail a-t-elle vraiment sa place dans un projet progressiste de transformation sociale ? La question peut paraître saugrenue. Aujourd'hui, en effet, le droit au travail, inscrit, rappelons-le, dans la Déclaration des droits de l'homme et repris dans le préambule de la Constitution de la Ve République, est présenté comme une avancée sociale majeure et une victoire du mouvement ouvrier. Quelle erreur ! Pour éclairer cette question, sans doute faut-il revenir sur la nature, l'origine et la fonction du droit au travail. Le droit au travail est la consécration constitutionnelle de l'esprit capitaliste, de l'irrationalité économique, du travailler plus pour gagner plus. Une victoire du mouvement ouvrier, comment y croire encore ? Car enfin, comment expliquer l'avènement de ce droit au labeur ? Comment expliquer l'adhésion insensée des travailleurs à ce droit à la besogne ? Pourquoi se battre et arracher un droit au turbin quand on s'est battu plus tôt pour abolir la corvée et le travail forcé ? Ça n'a pas de sens. Vivre en travaillant, mourir au combat, lancer les canuts révoltés. Tout cela n'a pas de sens. Et qu'on ne parle pas d'émancipation, d'épanouissement dans le travail, ce ne sont là que mythes, illusions, des croyances réconfortantes qui restent curieusement très vivaces aujourd'hui. Faut-il rappeler ici la condition ouvrière au XIXe siècle ? Faut-il lire Louis-René Villermé, son triste tableau de l'état physique et moral des ouvriers, pour s'en convaincre ? Non, décidément, cela n'a pas de sens. En fait, ce n'est qu'en intégrant la condamnation de l'indigence et de l'oisiveté au tableau que la revendication ouvrière d'un droit au travail prend sens. À la fin du XVIIIe siècle, alors que le travail, sous la plume de l'économiste anglais Adam Smith, apparaît comme la source de la richesse, l'indigence et l'oisiveté sont perçues comme une perte pour la société. Un manque à gagner que les nombreux dispositifs de travail forcé, inefficaces pour la plupart, ne parviennent pas à compenser. Aux yeux des libéraux, la mise au travail de la société ne doit donc pas reposer sur le travail forcé, mais au contraire, s'appuyer sur la liberté de travailler. D'après eux, ce sont les corporations de métiers, les monopoles et les autres barrières sur le marché du travail qui empêchent les indigents et vagabonds de travailler. La suppression de ces monopoles et corporations doit donc permettre à ceux qui souhaitent travailler de trouver un emploi et de supprimer ainsi la mendicité et l'indigence involontaire. Le coup est rude pour les frelons oisifs, marauds, ribauds et autres indigents, car les mesures de police utilisées à leur encontre s'en trouvent légitimées. Désormais, en effet, toute indigence résiduelle ne peut être que volontaire. Un crime ? Ainsi, lorsque le comité révolutionnaire pour l'extinction de la mendicité proclame la liberté de travailler en 1791, c'est en réalité le devoir de trouver un emploi qu'il impose à tous les individus valides. Le devoir aussi d'adhérer à l'esprit capitaliste, au nouveau contrat social tourné vers l'abondance et l'accumulation de richesses. Voilà ce qu'est le droit au travail, la droite l'a bien compris, la gauche aussi, malheureusement.
Notre dernier reportage, je vous le disais, a pour thème « L'éthique, un projet en toc ». Il a été réalisé à l'occasion des festifs de la décroissance à Merlimont.
Oui, bien donc nous sommes au festif de la décroissance à Merlimont. Et ce matin s'est déroulée une conférence débat avec Bruno. Bruno qui est intervenu sur la thématique les TIC, un progrès en TOC, point d'interrogation. Alors Bruno, bonjour, je te laisse, si tu veux bien, commencer par te présenter qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à venir ce matin à Merlimont au Festif de la Décroissance.
Bien, bonjour. Donc oui, je m'appelle Bruno Poncelet. Je viens de Belgique, donc j'ai fait la route en train pour venir ici au Festif. Alors qu'est-ce qui m'amène ici ? Une longue histoire et que je vais résumer très brièvement. Donc moi, je suis un formateur syndical en Belgique, c'est-à-dire que je fais de la formation syndicale auprès de délégués d'entreprise, mais je suis aussi quelqu'un qui suit de très près les politiques européennes, notamment les négociations autour de TAFTA. Et donc j'écris des livres sur les négociations TAFTA. Donc j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Marché Transatlantique. J'en ai écrit un autre énorme qui s'appelle Europe, une biographie non autorisée. Et dans les multiples recherches que je fais, il se fait que je me suis intéressé donc à la révolution numérique, donc au secteur de l'informatique, de la robotique, du monde de l'interconnexion. Et comme mes réflexions sont assez en phase avec celles des objectifs de croissance, c'est-à-dire que je ne crois pas que le progrès technologique soit d'office un progrès humain, eh bien Festive m'avait invité ici pour en parler.
Très bien, je te remercie. Effectivement, moi j'ai assisté à ta conférence débat qui m'a très sincèrement enthousiasmé. Hein. Donc concernant ces TIC, hein, les technologies de l'information et de la communication, tu évoques trois aspects, hein, je me permets de les résumer. Les impacts, hein, de ces TIC, impacts environnementaux, impacts sociaux et impacts démocratiques. Si tu veux bien, je te redonne la parole pour évoquer les aspects, donc les impacts concernant l'environnement. Ouais.
Alors je vais d'abord préciser que donc avec le secteur des nouvelles technologies, c'est d'abord quelque chose qui nous fascine bien souvent. Ça veut dire que ben, prenons les téléphones portables, les smartphones, internet, tout ce qu'on peut télécharger comme séries télévisées en streaming, films, qu'est-ce qu'on peut avoir comme échange sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui souvent fascine les gens. Alors les vieux, les jeunes forcément, donc c'est, enfin moi je connais des ados, ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'être people sur Facebook. Donc ces objets là c'est pas neutre parce que c'est souvent quelque chose qui nous fascine. Et donc moi ce qui m'intéressait dans cet atelier là c'est de dire mais tiens, ces objets qui nous fascinent, il faut savoir quand même qu'ils ont plusieurs faces cachées qu'on ne voit jamais et dont les entreprises du secteur numérique, mais dont aussi les acteurs politiques, ne vont jamais nous parler parce qu'on ne cherche pas à mettre ça en évidence. Et donc sur l'impact environnemental, sans donner de chiffres et sans être complexe, je dirais d'abord que la méthode de fabrication des nouvelles technologies est extrêmement polluante. Prenons un téléphone portable, il y a plus de 300 matériaux différents qui rentrent dans un téléphone portable. Certains de ces matériaux demandent des processus de fabrication qui sont excessivement polluants. C'est-à-dire que tu vas créer des milliers de litres d'eau acide, tu vas créer des métaux lourds, enfin tu vas créer des déchets toxiques extrêmement polluants. Eh bien, dans pas mal de régions du monde où les législations de protection de l'environnement n'existent tout simplement pas, l'industrie du secteur numérique fait fabriquer ses composants dans des conditions écologiques désastreuses. C'est-à-dire qu'on pollue massivement des régions géographiques entières et on les pollue pour très longtemps à cause de rejets massifs de produits toxiques qui vont avoir des conséquences à la fois sur la faune et la flore, mais aussi sur la santé de la population. Et donc j'ai notamment donné le cas de Baodang en Chine, donc d'une usine chinoise qui crée des objets pour l'industrie numérique, qui a créé une espèce d'immense lac artificiel de déchets toxiques, où on retrouve des métaux lourds, on retrouve des bains acides, on retrouve même de la radioactivité, qui fait que dans les villes avoisinantes, il y a des maladies de cancer. Ça c'est la première chose sur l'aspect environnemental. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister aussi, c'est le fait que l'industrie du secteur numérique, elle est extrêmement gourmande dans la méthode de fabriquer les objets en choses qui sont extrêmement toxiques. Mais une fois qu'on a l'objet, souvent il a une durée de vie très courte, parce que l'industrie du secteur numérique, elle fonctionne à fond la caisse sur le principe de l'obsolescence programmée. Dès que tu as acheté un ordinateur, il est quasi certain de passer de mode, et dès qu'on va avoir des logiciels plus puissants, ils ne seront plus adaptables sur ton ordinateur, donc tu vas devoir changer de bécane. Donc l'industrie numérique, elle fonctionne sur l'idée de renouveler le plus vite possible les objets que tu achètes. Or, parce que justement ces objets rassemblent des tas de petits matériaux différents qui sont très difficiles à désassembler, généralement il n'y a absolument pas ou très peu de recyclage des objets de l'industrie numérique, qui fait que la plupart de ces objets se retrouvent dans des décharges sauvages en Afrique, en Asie ou dans des zones du monde où ça continue à polluer.
Très bien, donc là c'est effectivement ces questions de pollution, de déchets, et concernant l'environnement tu as également évoqué les questions d'énergie.
Alors oui, parce que le fait par exemple d'aller sur d'aller sur Google, qui est une entreprise que je déteste soit dit en passant, pour avoir une information rapide, donc la rapidité avec laquelle tu accèdes à des informations sur Google ou sur le web en général, ça n'est possible que parce que Google a des milliers et des milliers de serveurs. Or, ces serveurs, ils consomment beaucoup, beaucoup d'énergie électrique. Donc on estime par exemple que tous les serveurs de Google en Europe consomme à peu près autant qu'une ville de, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était je crois 200 000 habitants. Donc en termes d'énergie électrique, Google en Europe, rien que pour ses serveurs, pour pouvoir fournir de l'information rapide, eh bien consomme en termes d'énergie électrique à peu près autant que 200 000 habitants réunis, tout besoin confondu quoi. Donc c'est quand même un secteur qui souvent aime se présenter comme propre, aime se présenter comme écologique, comme vert, mais en fait les consommations énergétiques sont fabuleusement élevées, notamment parce que des data centers, donc des serveurs informatiques, il faut d'une part de l'énergie électrique pour les alimenter, mais il faut aussi refroidir ces serveurs informatiques pour que les données ne soient pas perdues si le matériel chauffe trop. Et comment les refroidir? Justement à travers des systèmes de refroidissement qui sont gourmands en énergie. Or, plus le secteur numérique se développe, plus on va vers des formes de téléchargement de fichiers lourds, donc des vidéos, enfin des machins qui sont très gourmands, à la fois en bande passante et en énergie, et donc plus les serveurs informatiques nécessaires se multiplient. Donc le secteur, il est déjà très gourmand aujourd'hui, mais son développement dans le futur va être de plus en plus gourmand pour la planète.
Très bien, merci. Effectivement, on est très loin d'un marché ou d'une industrie propre. Alors, le deuxième aspect que tu évoquais, qui est souvent occulté également, c'est les aspects sociaux.
Ah ben oui, les aspects sociaux, ils sont à prendre en compte aussi. Alors, première chose bien à bien préciser, c'est que le secteur des nouvelles technologies numériques, c'est pas un secteur qui est aux mains des petites PME et des artisans ou des coopératives. Il y a certes des PME, des coopératives ou des gens qui travaillent en tant qu'indépendants dans le secteur. Mais si le secteur a aujourd'hui autant le vent en poupe et est en train de se développer tout azimut, c'est parce que derrière on retrouve, alors pour moi c'est même plus des entreprises privées, c'est des empires marchands. On retrouve, alors je pourrais les citer, il y a Microsoft, Google, Yahoo, Apple, enfin IBM, il y en a AT&T, il y en a des tonnes. Mais donc on retrouve derrière ce secteur-là des entreprises dont le chiffre d'affaires se chiffre en centaines de milliards d'euros. 100, 200, 300 milliards d'euros et dont les bénéfices se comptent généralement aussi en milliards d'euros. Donc on retrouve des acteurs qui sont parmi les plus puissantes multinationales du monde actuel. Et ces multinationales, comment est-ce qu'elles font autant d'argent? Ben souvent en laissant complètement de côté la question des travailleurs. Alors j'ai dit que c'était une préoccupation pour les travailleurs d'ailleurs et pour les travailleurs d'ici. C'est une préoccupation pour les travailleurs d'ailleurs parce que pour produire l'industrie numérique a besoin de toute une série de matériaux qui ont aussi besoin de travailleurs. Et l'on sait que dans les pays où il n'y a pas de protection sociale efficace, le sort de ces travailleurs est lamentable. Et donc j'ai notamment donné un exemple qui est d'ailleurs tiré d'une émission de France 2 qui s'appelle Cash Investigation. Ils ont été faire un reportage en République démocratique du Congo où on extrait le coltan. Le coltan, c'est donc un matériau qui conserve l'énergie. Une pierre qui conserve de l'énergie plus longtemps, et c'est grâce à ce coltan que tous les objets numériques qu'on utilise conservent en mémoire les données. Donc le coltan, c'est absolument nécessaire à n'importe quel objet numérique, smartphone, téléviseur, enfin à tout. Ce coltan, il est récolté dans des conditions dantesques, c'est-à-dire que les conditions sont tellement exécrables, il y a à peu près 3000 adultes, hommes, femmes, enfants, donc y compris des enfants qui travaillent dans les mines en République démocratique du Congo pour extraire le coltan. Ils travaillent en moyenne pour un salaire qui avoisine les 5,5 euros par jour. Et en fait, ces gens sont en train de récolter un matériau dans des conditions sociales abominables qui va être ensuite revendu sur les marchés mondiaux à des prix bien plus élevés. Mais surtout, les conditions de travail sont tellement atroces que tous les mois, il y a des effondrements de galeries. Et dans le cas où les effondrements de galeries sont un peu trop sérieux, eh bien plutôt que de déterrer les corps pour les enterrer, on les laisse carrément là-bas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'industrie numérique, si je ne prends que le cas du coltan, on pourrait en prendre beaucoup d'autres, dans les conditions de travail qu'elle impose à des travailleurs, elle pourrait changer les conditions de travail. Ils font des milliards d'euros de bénéfices. S'ils voulaient des conditions de travail un peu plus sympathiques pour les travailleurs, ils pourraient l'imposer. Eh bien, ils préfèrent ne pas l'imposer parce qu'effectivement, comment est-ce qu'on fait des milliards d'euros de bénéfices? Ben en partie, en créant des conditions de travail qui sont tellement merdiques, et je pèse mes mots, tous les mois, il y a des gens qui finissent par en mourir. Des hommes, des femmes et des enfants qui meurent. Donc à chaque fois qu'on achète un smartphone, une liseuse, un ordinateur portable, eh bien il faut savoir qu'il y a un petit peu de sang, un peu de sang humain sur cet objet-là. Donc ça c'est les conditions de travail ailleurs, mais il y a aussi les conditions de travail ici. Et là, je l'ai précisé, toute une série d'études aujourd'hui pronostiquent, alors c'est variable, mais que si le secteur des nouvelles technologies se diffuse comme c'est prévu par l'industrie numérique, il pourrait y avoir environ un emploi sur deux, 50% des emplois existants qui vont passer à la trappe. J'ai notamment cité le cas par exemple des caissiers ou caissières en magasin.
Effectivement.
Si tu équipes tous les objets que tu vends dans un magasin d'une petite puce RFID et que tu mets un portique à la sortie du magasin, la puce numérique qui équipe les objets va dire au portail « voilà combien je valais quand je sors de ce magasin » et on peut débiter automatiquement ton compte en banque. Donc le métier de caissier ou de caissière en magasin, c'est un métier qu'on peut supprimer. On peut comme ça demain, enfin d'ici 10, 15, 20 ans, supprimer à peu près 50% des emplois existants. Souvent des emplois peu qualifiés, etc. etc. Si on était dans une phase où le rapport de force entre le monde du travail et le monde patronal était un rapport de force en faveur du monde du travail, ou simplement un rapport de force où le dialogue existe encore, ce serait peut-être une bonne chose. Parce qu'on pourrait se dire, moins de temps de travail nécessaire pour produire des objets, repartageons le temps de travail entre tout le monde. Malheureusement, on n'est pas dans cette logique-là, comme je l'expliquais. On est aujourd'hui dans une logique où le monde patronal a clairement pris l'emprise. Ils font, grâce à des projets comme le marché unique européen ou demain un accord TAFTA avec les États-Unis, ce que les experts appellent du libre-échange, mais moi ce que j'appelle du shopping législatif. Ça veut dire que je prends le cas du marché unique européen. C'est un projet qui a été développé par l'industrie. Hein, c'est la table ronde des industriels européens qui a proposé ce projet à l'Europe, donc de grosses multinationales. Leur discours, c'était de dire on va faire du libre-échange parce que c'est un projet d'intérêt général. En fait, qu'est-ce qu'on constate avec le marché unique européen ? Mais c'est que tout ce qui n'est pas harmonisé au niveau européen, ce sont les normes salariales, ce sont les normes fiscales, ce sont les normes de défense des travailleurs, eh bien tout ça c'est mis en concurrence par les multinationales. Autrement dit, pour elles, le libre-échange, ça leur sert à faire du shopping législatif. Si elles ne veulent pas payer des gros salaires en France, pas de problème, elles vont en Roumanie. Si elles ne veulent pas payer des hauts impôts en France, pas de problème, elles vont en Irlande. Et donc on est dans un contexte aujourd'hui où malheureusement la norme juridique qui prévaut, pas seulement en France mais dans toute l'Union Européenne et demain à une échelle encore plus large, c'est la logique de dire aux multinationales, faites votre shopping législatif et dès qu'une législation vous emmerde dans un pays, ben vous déménagez ailleurs, vous délocalisez. Et grâce au libre-échange, on vous a offert ce droit que même si vous délocalisez, vous pourrez toujours vendre vos produits aux consommateurs, par exemple français, si vous allez produire en Roumanie ou en Pologne. Et bien donc, dans ce cadre-là, des objets numériques qui vont supprimer 50% des emplois existants, c'est extrêmement inquiétant. Parce qu'évidemment, on ne va pas partager le temps de travail qui reste entre tout le monde. Au contraire, on va faire en sorte qu'il y aura de plus en plus d'exclus, de plus en plus de gens qui ne vont plus avoir accès au travail, au moins de gagner leur vie. Et quant à ceux qui vont travailler, ils vont de plus en plus être mis dans des conditions de travail où ils sont mis en concurrence, notamment grâce à l'usage des nouvelles technologies. Et j'ai notamment cité le cas de l'entreprise Amazon. Moi, je vais citer des noms de marques, je ne suis pas un grand défenseur de la FNAC, mais entre les conditions de travail qu'on trouve à la FNAC ou les conditions de travail qu'on trouve chez Amazon, je préfère de loin les conditions de travail qu'on trouve à la FNAC. Même si quand il s'agit d'acheter un bouquin, ma préférence ira toujours au petit libraire indépendant, parce que lui, il a fait un choix de métier qui est le choix de métier du cœur et que c'est ça qui me plaît. Eh bien demain, avec l'industrie numérique, l'idée de faire basculer un maximum de gens dans l'achat en ligne. L'achat en ligne, ça veut dire plus d'impôts payés sur place, parce que l'achat en ligne, ça va servir à des plateformes qui seront dans des endroits paradis fiscaux, des endroits où on ne paye pas d'impôts. Et c'est aussi une manière de tuer finalement un emploi local qui existe déjà, qui est celui des commerçants. Alors, des petits artisans, des petits indépendants, des petits commerçants qui vendent encore aujourd'hui des choses. Tous ces gens-là, demain, ils vont être menacés par l'arrivée massive des plateformes de vente en ligne qui existent déjà aujourd'hui, mais dont le but est de les ultra-développer pour que demain, l'achat en ligne devienne plutôt la norme que l'exception.
Effectivement, c'est un exemple qui m'avait marqué ce matin dans ton intervention. C'est comment ça se passe chez Amazon ? Est-ce que tu peux rapidement y revenir ?
Alors, j'avais expliqué que plusieurs journalistes avaient fait une expérience de travail chez Amazon pour pouvoir parler des conditions de travail chez Amazon. Et dans tous les cas, elles sont effarantes. Et donc, je vais prendre le cas, puisqu'on est en France, de Jean-Baptiste Mallet, qui est un journaliste français, qui est allé travailler plusieurs mois chez Amazon.
Donc, de la revue Goliath. Hein.
Oui, donc lui, son but, c'était vraiment de pouvoir dire comment ça se passe. Et donc, il s'est fait engager. Et donc, comment ça se passe ? Eh bien, quand tu es engagé chez Amazon, donc il était engagé pour travailler de nuit, et son boulot était d'aller chercher dans les entrepôts d'Amazon les colis qu'on devait envoyer, enfin les différents produits qui devaient être envoyés aux personnes. Donc, lui allait dans un immense hangar chercher les produits. Ce qu'il racontait, c'est trois choses. Première chose, entre le moment où tu pointes chez Amazon et le moment où tu arrives sur ton lieu de travail, la pointeuse est à l'entrée du bâtiment, ton lieu de travail, tu fais un quart d'heure de couloir et de contrôle pour voir que tu n'emportes pas de marchandises avec toi. Et bien donc, entre le moment où tu commences à pointer et le moment où tu commences réellement ton travail, il peut s'écouler un quart d'heure. Donc ça veut dire que tu vas arriver dans le hangar pour venir travailler, tu vas passer un quart d'heure de contrôle de sécurité, puis tu vas seulement arriver à la pointeuse. Donc si tu arrives devant le bâtiment à l'heure de ton début de travail, tu es déjà systématiquement en retard. Donc tu es obligé d'arriver avec un quart d'heure d'avance qui n'est jamais comptabilisé dans ton temps de travail. Ça, c'est une petite tricherie. Deuxième chose, son boulot...
Une petite tricherie multipliée par
un grand nombre d'employés. Ah oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est une petite tricherie qui est devenue tellement courante. Mais non, elle est évidemment catastrophique, hein, on est bien d'accord. Moi, je travaille dans un syndicat en Belgique, c'est catastrophique. Mais je veux dire, c'est encore une petite tricherie dont sont capables beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Mais c'est une petite tricherie en regard du reste. Donc le reste, c'est quoi ? C'est que quand tu es quelqu'un qui va chercher les produits chez Amazon, tu dois prendre un petit scanner qui en fait va te donner tes instructions de travail. C'est lui qui va te dire, mais voilà, tu vas maintenant dans les 22, le rayon B, le produit Intel, tu vas chercher ça. Dès que tu l'as produit et que tu l'as scanné, il te dit, ah, maintenant tu vas au rayon 15 prendre ce produit-là. Autrement dit, tu es dans un travail qui est abrutissant parce que tu ne réfléchis absolument plus à ce que tu fais. C'est la machine qui te dit étape par étape ce que tu dois faire. Et surtout, cette machine encode le moindre de tes déplacements, le nombre de produits que tu collectionnes dans ton temps de travail et évidemment compare ces données-là avec l'ensemble des autres travailleurs. Donc tu es mis dans un système où ta manière de travailler est encodée par des logiciels informatiques et où à tout moment on peut te comparer aux autres pour te dire « ah ben écoute, tu es plutôt au-dessus ou en dessous du lot ». Et si tu es en dessous du lot, tu as intérêt à redresser la barre. Je disais même que c'était encore plus catastrophique que ça, puisque la machine enregistre tes performances de travail tous les jours. Donc tu es dans un système où tu es mis en concurrence avec les autres travailleurs, mais tu es carrément mis en concurrence avec ta propre productivité à toi. Ça veut dire que si un jour tu travailles un peu moins bien, eh bien directement le scanner va se rendre compte que tu travailles moins vite qu'avant et donc directement il va pouvoir lancer un message d'alerte à la direction qui va venir te trouver en disant « et c'est quoi ça ? C'est... faut un peu dresser la barre quoi. » Donc c'est quand même un système du marche ou crève. Ça veut dire que tu dois toujours être au taquet, toujours être ultra performant parce que le jour où tu ne l'es plus assez, directement les logiciels le repèrent et peuvent te mettre de côté. Or, ce travail-là, et c'est le troisième dernier point qui me semble important de développer, il est hyper abrutissant. Et donc je disais que notamment Jean-Baptiste Mallet était un journaliste qui avait donc la facilité et la faculté de lire et d'écrire. C'est quelqu'un qui lit facilement et qui écrit facilement, c'est son boulot. Eh bien, il a décidé d'arrêter prématurément son expérience à Amazon quand il s'est rendu compte que rentrant de sa nuit de travail, il devenait incapable de mettre sur papier ce qu'il avait vécu. Parce que pour lui, c'était évidemment important de mettre sur papier ce qu'il avait vécu dans le but de faire son bouquin. Mmh. Eh bien, le jour où lui s'est rendu compte qu'il était tellement abruti par son travail qu'il devenait incapable de mettre des mots correctement alignés sur un papier, il a décidé d'arrêter.
Il est parti.
Pour moi, ça dit tout des conditions de travail chez Amazon. Mmh. Donc voilà, alors je suis pas là pour défendre d'autres entreprises, la Fnac ou d'autres, mais simplement ce que je veux dire, c'est que quand on développe un Amazon et du commerce en ligne, on développe aussi des conditions de travail qui sont ignobles, tant en termes de salaire qu'en termes de conditions de travail, mais surtout à chiffre d'affaires égal, donc pour 1000 bouquins vendus, Amazon emploie infiniment moins de monde que la Fnac, qui est le même, on pourrait déjà infiniment moins de monde qu'un libraire indépendant.
Bien sûr.
Donc plus on rentre dans une logique de commerce en ligne, par exemple d'Amazon ou d'autres, hein, parce qu'ils ne sont plus les seuls sur le marché, et bien plus on promeut de l'emploi dégueulasse et plus on promeut de la suppression d'emplois. Et ça, je pense que c'est un des aspects importants dans ce que j'ai discuté aujourd'hui avec les gens qui étaient présents, c'est que l'industrie numérique, c'est une industrie qui nous impose toute une série d'objets, de besoins, de nouvelles possibilités, mais c'est aussi une entreprise qui souvent nous fascine, et si la vente en ligne se développe, c'est pas seulement parce que les entreprises la proposent, c'est parce qu'aussi toute une série de consommateurs se disent « ah, je préfère ça et c'est beaucoup plus sympa ». Ben moi, je voudrais dire aux gens qui achètent en ligne, réfléchissez quand même un peu aux conséquences sociales que ça a et aux conditions de travail que ça promeut, parce que vous êtes en train de favoriser un système qui est en train de détruire l'emploi et donc de favoriser la pauvreté, donc de favoriser la violence. Et finalement, vous êtes en train de favoriser à votre petite échelle un monde qui, moi, ne me semble pas spécialement sympathique.
C'est clair. Peut-être le troisième point que tu évoquais, c'est donc les questions de vie démocratique, hein, qui concernent à la fois la vie privée et d'une manière générale la politique finalement.
Alors oui, la vie privée, parce que on le sait déjà, hein, aujourd'hui avoir un smartphone, enfin moi j'en ai pas, j'ai pas de téléphone portable, mais avoir un smartphone aujourd'hui, on est géolocalisable en permanence. Ça veut dire que les gens qui gèrent le GPS de votre téléphone portable peuvent dire en permanence où vous êtes. Les gens ne le savent pas, mais quand vous avez un smartphone équipé d'un micro et d'une caméra, vous faites des photos, c'est bien sympa, mais en fait si jamais quelqu'un de malveillant, un hacker par exemple, voire éventuellement l'entreprise qui gère votre logiciel, décide d'activer cette caméra ou ce micro à votre insu, c'est tout à fait possible. Donc aujourd'hui, vous portez sur vous des objets qui sont tout à fait susceptibles de vous espionner, pas seulement en termes de localisation, mais aussi en termes d'écoute de ce que vous êtes en train de raconter, par exemple quand vous êtes chez vous avec votre copain ou votre copine ou vos enfants.
Ou les choix d'achat.
Voilà. Et donc ça, on a déjà aujourd'hui à travers le smartphone un petit objet qui est un outil, alors que quasi tout le monde possède aujourd'hui, mais qui est déjà un outil d'intrusion massive dans la vie privée. Il faut savoir, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, que l'ambition de l'industrie numérique, et donc je parle de gros acteurs, mais notamment d'un lobby qui s'appelle Global System One, donc GS1, est demain de rendre tous les objets interconnectés. Autrement dit, d'équiper tous les objets d'une petite puce qui communique par une petite puce numérique qui communique par onde radio, on appelle ça des puces RFID pour radio fréquence identification, qui va faire en sorte que tous les objets vont rentrer en communication les uns avec les autres. Mais donc ça veut dire que dès que vous achèterez un vêtement, une peluche pour vos enfants, un bouquin, enfin n'importe quel objet que vous achèterez sera interconnecté via cette puce qui communique par onde radio, et elle sera interconnectée avec Internet, un Internet des objets, à laquelle elle pourra donner des informations ah ben voilà, tiens, la personne qui me promenait aujourd'hui, il est allé me promener à tel endroit, et finalement, où il m'a donné à telle personne. Mais elle pourra aussi recevoir de nouvelles instructions. Autrement dit, demain, on va être appelé à vivre, en tout cas si cette tendance-là se confirme, on va être appelé à vivre dans un monde où le moindre objet qui nous entoura sera un objet qui va encoder les moindres faits et gestes de notre vie quotidienne. Et ça, c'est inquiétant, parce que la vie privée, je le rappelais tout à l'heure, c'est une liberté fondamentale. Et pourquoi est-ce que c'est une liberté fondamentale? Parce que l'histoire des sociétés nous a appris que quand on ne protégeait pas la vie privée des individus, toute une série d'acteurs malveillants, ça pouvait être des dictatures à une certaine époque, utilisaient les données privées des gens, mais par exemple pour repérer, alors je prends l'exemple, mais tous les gauchistes, et pouvoir les arrêter massivement et pouvoir éventuellement les passer, les faire passer de vie à trépas. Ça s'est passé dans pas mal de dictatures, notamment en Amérique du Sud. Donc la vie privée, c'est quelque chose de fondamental. Eh bien aujourd'hui, l'ambition du secteur numérique est de développer un Internet des objets, autrement dit, des objets qui s'interconnectent et donc où on va tous être dans des phases de communication voulue ou non voulue avec tous les objets qu'on achètera. Et ces objets vont être capables d'encoder nos moindres faits et gestes. C'est impossible de maintenir une vie privée digne de ce nom dans ce cadre-là. Et c'est pourtant l'objectif à la fois de l'industrie numérique qui espère comme ça beaucoup mieux cerner nos besoins de consommateurs et repérer nos failles, nos faiblesses pour mieux pouvoir cibler ses publicités sur nos points faibles justement et donc nous pousser à l'acte d'achat. C'est plus efficace si je connais ton point faible de te dire achète ce truc-là qui te tente vraiment plutôt que de te proposer un truc qui ne te tente pas du tout. Ça c'est le premier volet et ça intéresse aussi un autre acteur particulier, ce sont les services secrets des États. Qui évidemment, eux, espèrent, alors ils vont dire qu'ils espèrent repérer les méchants terroristes, en fait ils espèrent aussi pouvoir taper des profils politiques, des profils sociologiques de la population, à la fois pour repérer éventuellement des gens qui sont dangereux pour la sécurité publique, mais aussi parfois des gens qui ne sont pas du tout dangereux pour la sécurité publique, mais qui sont en train d'agir dans la norme qui n'est pas la norme politique du moment, hein, autrement dit des gens qui sont plutôt, qui sont simplement des opposants et qui dans une vraie démocratie, devraient être qualifiés de gens, de citoyens à part entière, mais qui là vont être vus comme des citoyens à surveiller de près. Et donc ça pose beaucoup de questions. Et donc ça pose beaucoup de questions parce que il y a énormément d'interconnexions entre le monde marchand, donc le monde des entreprises privées, des empires marchands qui promeuvent l'industrie numérique, et le monde politique. Et donc c'est là-dessus que j'ai terminé tout à l'heure en disant que si aujourd'hui on a comme ça toute une série de nouveaux objets qui semblent tomber du ciel, hein, les smartphones, les nouvelles applications, etc., c'est évidemment parce qu'il y a l'industrie qui travaille dessus. Mais c'est aussi parce que l'industrie travaille, et ça on ne le sait pas, travaille intensément à convaincre le monde politique d'instaurer toute une série de nouvelles réglementations ou de nouvelles techniques d'interconnexion pour les objets interconnectés, qui est un travail de l'ombre que personne ne connaît. Ça veut dire que pour que l'industrie numérique se développe, il y a évidemment besoin que les consommateurs réagissent positivement, il y a besoin que l'industrie numérique invente des nouveaux objets, mais il y a aussi besoin d'un acteur politique qui rende cela possible. Et aujourd'hui, et ça on ne le sait pas, mais à travers toute une série de décisions européennes, l'industrie numérique est en train de développer vraiment le fait d'imposer aux gens le fait d'aimer les nouvelles technologies. Et donc tout à l'heure, je parlais d'un programme politique qui s'appelle Europe 2020. Il faut savoir que ce programme politique Europe 2020, il est fait par l'Europe, donc il se décline à chaque échelle nationale, en France, en Belgique, en Angleterre, etc., etc. Mais il est décidé à l'échelle européenne, et il a été décidé à l'échelle européenne parce que l'industrie numérique en a fait la demande à l'Europe, au monde politique. Et le monde politique a accepté de suivre cette logique-là, et par exemple a développé comme objectif dans Europe 2020 le fait de promouvoir l'usage d'Internet. Mais donc l'idée c'est que 100% des gens dans chaque pays européen soient connectés à Internet. Parce que si demain tu inventes des objets interconnectés, il faut que les gens soient interconnectés. Le but, je l'ai expliqué aussi, c'est de convaincre par exemple 50% de la population de faire, plutôt que d'aller voir leur administration pour demander des papiers d'identité ou pour aller faire une démarche administrative, c'est plutôt que les gens le fassent par Internet.
La e-administration.
Voilà, ce qu'on appelle l'e-administration. Le but c'est quoi? C'est évidemment de faire en sorte que les gens s'habituent de plus en plus à passer par une plateforme web plutôt que d'aller physiquement voir quelqu'un qui travaille à l'administration. Parce que dans l'objectif de supprimer des emplois dans l'administration et dans la fonction publique, c'est évidemment pratique que les gens n'aillent plus dans l'administration.
Bien sûr.
Et alors j'ai insisté aussi sur l'autre aspect, c'est qu'on est en période d'austérité, et pourtant donc on dit moins de sous pour l'enseignement, moins de sous pour les transports publics, moins de sous pour la sécurité sociale et donc la santé, le droit d'accès à la santé. Eh bien très paradoxalement, cette période d'austérité publique promue par l'Europe et développée par l'Europe, défendue par l'Europe qui dit vive l'austérité, hein, Eh bien, l'Europe en matière numérique, elle ne dit pas vive l'austérité. Elle dit au contraire, il va falloir que les acteurs publics, donc les finances publiques, acceptent de dépenser plus d'argent pour développer toute une série de, par exemple, de fibres optiques ou d'antennes d'interconnexion, afin que justement le secteur numérique puisse se développer. Donc c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est dans une phase où on réduit toutes les dépenses publiques, mais là-dessus, on ne les réduit pas, au contraire, on les augmente. Et alors, l'objectif, c'est quoi ? Ben, l'un des objectifs, c'était de dire notamment que dans chaque pays européen, de plus en plus de gens devaient faire de l'achat en ligne et que notamment, on devait arriver à convaincre une personne sur cinq, c'est énorme, une personne sur cinq, de faire de l'achat en ligne transfrontalier. Donc, par exemple, de convaincre un Français d'acheter via un site d'achat en ligne un produit qui n'est pas commercialisé en France, mais par exemple qui est commercialisé, je ne sais pas, on va dire en Grande-Bretagne. L'objectif est toujours le même, c'est de nous habituer à utiliser Internet et toutes les nouvelles potentialités. Et donc, l'objectif, il est politique. Donc, il est écrit, c'est un cahier de charges politique. Et donc, le but est de convaincre la population d'arriver à convaincre la population de faire ce genre d'acte pratique de consommation, dans le but justement que l'acte devienne naturel et qu'on ne le sente plus comme un acte qu'on nous impose, mais comme un acte qu'on a soi-même désiré. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que c'est un programme politique. Et donc, quand on bascule là-dedans de son plein gré, en fait, on répond à une demande politique et ça va m'orchestrer à travers toute une série de mécanismes.
Finalement, on n'est pas libre, quoi.
Et donc, finalement, alors après, on peut trouver ça très sympathique. Hein. On est libre de trouver ça très sympathique. Mais ce que je veux dire, c'est que ce côté très sympa, en fait, il est décidé de concert par l'industrie numérique et par les gouvernements qui ne nous disent pas un mot de leur entendre sur ce point-là, de manière à nous convaincre d'aller de plus en plus dans des usages d'Internet. Et alors le but, c'est quoi ? C'est qu'une fois qu'on a rendu, par exemple, l'acte d'achat en ligne quasi inné, naturel et automatique chez les gens, eh bien, on va pouvoir leur vendre des frigos intelligents, donc des frigos qui seront équipés de puces numériques, avec des produits à l'intérieur qui seront équipés de puces numériques. Et si vous êtes, par exemple, un grand consommateur de yaourt et que vous avez acheté 6 pots de yaourt, le frigo intelligent enregistre qu'il y a 6 pots de yaourt dans le frigo, vous en avez mangé 4, ben, le frigo intelligent sait qu'il y en a plus que 2, il se dit bingo, je dois recommander. Et le frigo intelligent va se connecter sur une plateforme de vente en ligne et recommander automatiquement vos nouveaux yaourts. Et ça, ce n'est possible que dans un monde où on a habitué les gens à acheter en ligne, à trouver normal d'acheter en ligne. Mais je vais rappeler que quand on rentre dans ce genre de monde-là, mais on favorise des entreprises de vente en ligne qui n'ont rien à foutre des conditions de travail et qui n'ont rien à foutre d'offrir du travail à tout le monde, et qu'en même temps, on tue de l'emploi local à travers des indépendants, des PME, des petits commerçants qui, eux, dépendent de des gens qui vont les venir voir sur place pour acheter des produits qui sont vendus dans leur magasin et qui vont vendre de moins en moins de produits parce que plus on va basculer dans l'achat en ligne, moins on se déplacera pour acheter un produit dans un magasin, moins on se déplacera pour aller voir quelqu'un dans l'administration. Et donc tout ça, ça annonce des suppressions d'emplois qui sont d'autant plus terribles, qu'on ne va pas partager le temps de travail existant, mais qu'on va justement virer de plus en plus de gens pour garder un minimum de travailleurs. Alors voilà, le mot de la fin, ce serait peut-être aussi de dire que cette réflexion sur le secteur des nouvelles technologies, le but n'est pas de dire que tout est mauvais, mais le but c'est de dire ne croyez pas tous les messages publicitaires que vous recevez. Le monde de l'industrie numérique adore communiquer en disant on facilite les communications, on facilite la vie de famille, on facilite votre vie. Enfin, c'est toujours un monde où tout est merveilleux dans la communication.
La santé aussi, la santé. L'industrie du numérique permet des choses au niveau de la santé qui sont formidables.
Moi, ce que j'ai juste envie de dire ici aux gens, c'est ayez un regard un peu plus critique que ça. Rendez-vous compte que derrière le miracle qu'on est en train de vous vendre, il y a des logiques qui sont catastrophiques sur le plan environnemental. Or, on ne peut pas bien vivre sans une terre en bonne santé, et la terre est en mauvaise santé. Il y a des logiques qui sont catastrophiques déjà aujourd'hui sur le plan social, pour des enfants qui travaillent en Chine, enfin en Asie, ou qui meurent carrément dans l'industrie minière en République démocratique du Congo ou ailleurs, pour fabriquer des objets qui ont donc du sang sur les mains. Il y a également des conséquences sociales catastrophiques qui s'annoncent demain, si on supprime des tonnes d'emplois dans des secteurs différents, sans jamais se soucier de partager le temps de travail disponible, qui va diminuer puisque les nouvelles techniques vont permettre d'économiser du temps de travail. Et donc, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est au-delà des messages publicitaires que vous envoie l'industrie numérique pour disant mais regarde comme il est sympa mon smartphone, regarde comment il est sympa mon crédit, regarde comment tu pourras envoyer des SMS, comment tu pourras télécharger des vidéos, etc. Rendez-vous compte qu'il y a un impact écologique, qu'il y a un impact social, et
adoptez peut-être un regard critique, informez-vous sur ça. Essayez d'exercer votre sens critique en achetant des bouquins qui en parlent de façon intelligente, en regardant, alors je vais faire la promo d'une une émission comme Cache Investigation, faite par France 2 et qui raconte beaucoup de choses intelligentes sur l'envers du décor du monde de l'industrie. Et soit vous avez vraiment envie de ces objets, et alors essayez de développer des pratiques alternatives en utilisant des logiciels libres, en essayant de partager les outils informatiques que vous avez avec d'autres personnes, de manière à diminuer le nombre d'achats par rapport au nombre de personnes qui utilisent ces objets, ou carrément, si vous en avez le courage, en vous passant parfois de certains objets informatiques. Alors, c'est pas toujours facile, parce qu'on est dans un objet interconnecté, donc quand on n'est pas interconnecté, on n'est pas mode, on n'est pas in, on n'est pas people, mais en même temps, c'est parfois aussi enrichissant de pouvoir se passer de certains biens et de redévelopper des rapports humains qui sont un peu différents.
Très bien, c'est effectivement une belle perspective. J'ai envie de te poser une dernière question. Tu évoquais le fait que tu étais investi professionnellement dans le monde syndical. Comment s'est perçu ces questions-là dans le monde du travail, au niveau syndical, même au niveau militant? Alors, parce que la déferlante, elle est à l'œuvre aussi.
Alors, le monde syndical, il est au carrefour de plusieurs choses. Donc moi, je travaille à un syndicat qui s'appelle la FGTB Wallonne. Je dirais que c'est un peu l'équivalent de la CGT en France, pour donner une image. Voilà, et je dirais que le monde syndical, le cas de la FGTB Wallonne, on est bien en train de se rendre compte aujourd'hui dans le monde syndical qu'on est en train de perdre le rapport de force avec le monde patronal. Si je devais résumer très brièvement l'histoire de pays comme la France ou la Belgique, au 19e siècle, l'époque de la révolution industrielle, on était en époque de tyrannie économique où les patrons faisaient absolument tout ce qu'ils voulaient. Et quand tu étais travailleur, tu n'avais absolument aucun droit. Tu n'avais pas le droit à te réunir, tu n'avais pas le droit à manifester. Tu avais même des carnets dans lesquels les patrons pouvaient dire si tu étais un travailleur corvéable à merci ou si tu étais un sale travailleur qui te plaignait. Et ce carnet, tu devais le présenter quand tu changeais d'emploi. Tu étais vraiment fiché par les patrons et les conditions de travail, elles étaient ignobles. Puis il y a eu toute la vague, ça a duré des décennies, de gens qui se sont battus pendant des générations pour changer les choses et qui ont fini par changer les choses avec l'invention d'accords de branche en France, de toute une série de mécanismes de solidarité, l'invention de la sécurité sociale, la création de la sécurité sociale, des mécanismes aussi de réglementation du droit du travail, instauration de salaire minimum, etc., etc., qui a fait que travailler est devenu quelque chose où on ne risquait plus sa vie et où en plus on avait finalement droit à des loisirs, droit à des vacances et est devenu quelque chose que beaucoup de gens ont vu comme quelque chose de finalement très sympa. Grâce à mon travail, je gagne ma vie. Il faut savoir que cette logique de grâce à mon travail, je gagne ma vie, c'est justement lié aux conquêtes démocratiques qu'on a fait dans la sphère économique. Donc au fait qu'on est passé de tyrannie économique à démocratie économique. Aujourd'hui, et je pense que beaucoup de syndicats commencent à s'en rendre compte, pas encore tous, on est en train de basculer à travers la logique du libre-échange, du shopping législatif, à des logiques où le monde patronal nous impose s'arroge le droit de pouvoir choisir entre tyrannie économique et démocratie économique, et autrement dit, est en train de piétiner, de cracher sur le contrat social qui a été signé entre le monde patronal et le monde syndical. Donc je dirais que le monde syndical, en tout cas, il est conscient aujourd'hui qu'il est en train de perdre un rapport de force avec le monde patronal, notamment à cause de la logique du libre-échange. Et c'est pourquoi, je vais prendre le cas de la FGTB Wallonne, mon syndicat, en 1986, quand on a parlé du marché unique européen qui a été approuvé en 1993, le monde syndical, la FGTB Wallonne, était favorable à cet accord-là. Parce qu'il croyait à cette sornette qui consistait à dire « ça va juste booster le chiffre d'affaires, la création d'emplois, mais chacun restera libre de négocier à son échelle nationale ». 20 ans plus tard, la FGTB Wallonne, dans laquelle je travaille, se rend compte que cette logique de libre-échange, c'est une logique à marché dupe, parce que justement, même si on reste libre de négocier en Belgique ou en France les conditions de travail, si on négocie de trop bons accords, on sait qu'après il y a des délocalisations vers des trucs où il n'y a pas d'accord, et donc que finalement on est perdant, parce qu'on a un très bon accord, mais on n'a plus d'emploi. Et donc, par rapport à ça, le monde syndical se réveille. C'est pour ça que toute une série d'acteurs syndicaux, alors il y en a beaucoup en France, la CGT en fait partie, la FGTB Wallonne en Belgique en fait partie, militent aujourd'hui activement contre le TAFTA. Et j'assiste d'ailleurs beaucoup aux gens d'aller voir les sites Stop TAFTA en France ou No Transat en Belgique, parce que c'est une des manières par laquelle le monde patronal, et je ne parle pas du monde des PME, je parle du monde des multinationales, est en train d'imposer un changement dans la donne politique pour abandonner la démocratie économique au profit de la tyrannie économique. Ça, c'est le premier volet de ma réponse. Le deuxième, je vais être beaucoup plus court. Par rapport à tout ce qui est nouvelle technologie, là, le monde syndical auquel j'appartiens, et je pense que c'est le cas de beaucoup de syndicats aussi en France, à une exception près, qui est le syndicat Sud, qui, eux, je trouve, font un remarquable travail là-dessus. Donc, le monde syndical auquel j'appartiens est encore trop dans une logique 19e siècle. Ça veut dire qu'ils confondent progrès technologique et progrès humain.
ils confondent progrès technologique et création d'emplois. Donc eux, ils se disent, bah, tiens, que ce soit des nanotechnologies, que ce soit des innovations techniques, quelles qu'elles soient faites par le monde marchand, là, ils ne voient plus le monde marchand comme des patrons qui veulent les couillonner, mais ils les voient comme des patrons créateurs d'emplois. Or, je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux parce que les nouvelles technologies, quand on invente des nouvelles techniques de production ou des nouveaux produits, ben ça peut parfois détruire beaucoup d'emplois, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut aussi parfois avoir des conséquences très lourdes sur le plan sanitaire. Or, généralement, on met sur le marché des produits dont on ne connaît pas la dangerosité, donc le côté danger pour le public en termes de santé. Et ces questions-là, malheureusement, dans la sphère syndicale, elles ont du mal à percer. Ça veut dire que le monde syndical, il reste encore trop dans une logique de réflexion purement économique. Tout nouveau produit va amener une création d'emploi et donc en tant qu'acteur syndical, je suis pour. Et de ne pas encore réfléchir assez à la dimension sociétale. Donc, mais tiens, il n'y a pas qu'éventuellement la création d'emploi, il y a aussi éventuellement la destruction d'emploi que ça va créer. Et où est la balance entre destruction et création d'emploi ? Où est aussi le danger éventuellement en termes de viol de la vie privée ? Où est éventuellement le danger en termes d'impact sur la santé de la population ? Par rapport à ça, que ce soit dans le secteur de la chimie, de la pharmacie, de l'alimentation ou dans le secteur numérique, le monde syndical a encore un réflexe que je trouve archaïque, y compris le syndicat auquel j'appartiens. Cela dit, ça évolue quand même petit à petit, parce qu'en France, vous avez un syndicat Sud qui, lui, fait ce travail remarquable, mais par exemple, à la fois de défendre les travailleurs qui font des bagnoles, parce qu'il faut bien les défendre en tant que délégués syndicaux, c'est important, mais en même temps, de faire une réflexion sur quelle utilité ça a de vendre des bagnoles dans notre société. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment le syndicat en tout cas dans lequel moi je me reconnais. On n'a pas d'équivalent de Sud en Belgique, mais je dirais que du côté de la FGTB Wallonne, je vais quand même dire un mot de bien de mon employeur, c'est que même s'il n'est pas toujours convaincu par mes thèses, il a quand même le mérite de me laisser les développer, d'autoriser le débat. Et donc même sans être convaincu, donc la structure n'est pas convaincue par la thèse critique que je développe sur les nouvelles technologies, mais par contre, l'opportunité d'en discuter, voire parfois de d'aiguiller un peu les positions syndicales sur certains points, ça existe réellement. Et ça, c'est quand même un bienfait. Et alors je vais quand même dire que j'ai parlé donc de la structure syndicale. Après, il faut savoir que les syndicats, c'est des appareils qui réunissent des milliers de personnes différentes. Et donc ce qui est fascinant quand on rentre dans un syndicat, c'est de se rendre compte de la diversité humaine qu'il y a là-dedans. Avec des gens qui sont qui sont tout bonnement fascinants parce qu'on fait des rencontres qui partent dans tous les sens. Voilà, moi je travaille dans un syndicat qui a priori est athée et anti-religieux. Il y a plein de gens religieux dans mon syndicat que je trouve très sympathiques. Voilà, moi je développe un regard très critique sur les nouvelles technologies ou sur l'impact environnemental de l'économie. C'est pas le dada premier de mon syndicat, mais dans le syndicat je rencontre beaucoup de gens qui pensent comme moi. Voilà. Et donc, je dirais que le monde syndical, c'est comme le monde associatif, c'est comme le monde des mutuelles. Ce sont des acteurs qui défendent, dans une certaine mesure, des logiques d'intérêts généraux. Alors après, ils ne défendent pas toujours l'intérêt généraux parce qu'ils sont aussi dans des logiques de défense très sectorielles. Mais c'est donc des acteurs qui doivent exister. Après, qui doivent pouvoir écouter d'autres acteurs qui défendent, je vais donner un exemple, mais quand on promeut la vente d'armes, par exemple, on peut défendre les travailleurs du secteur de l'armement. Mais en même temps, on ne peut pas, pour moi, promouvoir la vente d'armes à n'importe qui, n'importe comment dans le monde. Et donc, je suis pour qu'il y ait des syndicats qui défendent les travailleurs qui travaillent dans l'industrie de l'armement. Mais je suis aussi pour avoir des ONG de droits de l'homme qui vont dire, les ventes d'armes, il faut peut-être se calmer un petit peu et s'arrêter. Et donc, voilà, je crois que ces acteurs-là, le monde associatif, le monde syndical et d'autres acteurs collectifs comme ça, ils doivent absolument exister parce qu'ils font un travail. S'il n'y avait plus de syndicats en France, j'aime autant vous dire que le niveau des salaires, vous le divisez par 10 facilement. Et ça finira par arriver si le rapport de force continue à se détériorer. Mais donc, c'est des acteurs qui doivent exister, mais qui doivent exister en écoutant des acteurs avec lesquels ils ne sont pas toujours d'accord, mais qui, d'une certaine manière, travaillent sur des terrains différents, mais qui travaillent finalement avec le même objectif, c'est de défendre de l'intérêt général.
Cette dernière émission est maintenant terminée. Merci de nous être fidèles. Micro Rebelle vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel, et également sur PFM. À très bientôt donc, bel été à toutes et à tous.